Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas su la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié. C'était de lui que j'ai dit, « Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père.
Ce soir, nous commençons une nouvelle série sur l'évangile de Jean. Alors, on ne va pas faire tout l'évangile de Jean, parce que là, ça prendrait vraiment longtemps. Mais on va en tout cas parcourir plusieurs chapitres. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on avait dit qu'on commencerait directement au verset 19, puisqu'on avait déjà traité le prologue. Mais en vérifiant, on s'est vu que c'était il y a 3 ans qu'on avait traité le prologue. Alors, je ne sais pas combien de personnes, ce serait intéressant de voir combien de personnes étaient là en décembre 2010. Voilà, donc c'est quand même... pas la majorité, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une des caractéristiques de cette église et encore plus de cette rencontre du dimanche soir qui a beaucoup de va-et-vient, beaucoup de personnes qui sont là pour quelques mois, pour 1 an, pour 2 ans. Et c'est aussi un privilège, parfois c'est un défi. Mais donc voilà, finalement on a changé d'avis et on va reprendre le prologue, on va reprendre l'évangile des gens depuis le début, depuis donc ce célèbre texte, sans doute pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà entendu, l'avez déjà lu, peut-être pas tous. Le texte de ce soir est peut-être celui qui, dans toute l'histoire de l'humanité, atteint le sommet le plus vertigineux dans sa prétention à décrire les vérités les plus profondes et les plus essentielles qui soient. Ce texte affirme nous parler de ce qui est avant toute autre chose, de ce qui est avant et en dehors de notre univers même. Et devant ce texte et devant les affirmations de ce texte, en quelque sorte, il faut choisir. Soit c'est du délire, soit c'est la vérité la plus profonde qui soit, inspirée par Dieu lui-même. Un mot nous frappe d'entrée, l'un des mots-clés, sans doute le mot-clé de ce texte. Jean est le seul, dans tout le Nouveau Testament, à utiliser le mot « logos », qu'on traduit généralement par « parole » ou parfois « le verbe », pour nous parler de Jésus-Christ lui-même. C'est évidemment de lui qu'il s'agit dans ce texte, lorsqu'il est question de la parole, lui qui est le Fils de Dieu et qui est explicitement nommé dans le texte au verset 17. Alors, on ne pourra jamais faire justice à ce texte en moins d'une demi-heure. Je ne vais même pas essayer, mais je vous propose d'essayer quand même de comprendre le message essentiel que Jean veut nous communiquer dans ce chapitre. Donc, j'ai souhaité qu'on lise quand même l'ensemble de cet extrait. Mais en fait, on va se pencher pour l'essentiel sur les versets 1 à 4, puis le verset 14 et le verset 18. Non pas que ça soit plus important que le reste, mais il me semble qu'on a là un peu le résumé du message de ce texte. Et on va étudier trois aspects de cette parole, ce logos que Jean nous décrit. Il nous décrit cette parole comme une parole qui est une personne venue parmi nous et qui est Dieu avec nous. On va commencer donc avec ce premier point, une personne. L'évangile de Jean commence, on peut le dire, par un coup de tonnerre. Au commencement, je vais prendre une Bible parce que c'est une version légèrement différente que j'ai ici. Excusez-moi, les risques du métier. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Au commencement, la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Pourquoi est-ce que Jean s'exprime ainsi? Certains ont pensé qu'en utilisant ce terme, qu'on traduit par parole, il souhaitait récupérer en quelque sorte un concept philosophique grec. Pour certaines écoles de pensée de l'époque, le logos, qu'on appelait le logos, c'était le principe d'ordre qui est présent dans l'univers, ce qui fait que l'univers tient ensemble, si vous voulez. Alors il est probable que Jean, en utilisant ce terme, savait que ça rencontrerait un écho auprès de ses lecteurs grecs en particulier. Mais quand on regarde le contexte de ce texte, on a le sentiment que ce n'est pas le sens premier qu'il veut donner à ce terme. Alors de quoi est-ce qu'il parlait en premier lieu? Eh bien, il y a un indice décisif qui nous est donné par les deux premiers mots. Au commencement. Au commencement. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est par ces deux mots, bien sûr, que commence la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. Comme ça que débute le texte biblique. C'est évidemment pas par hasard que Jean choisit de commencer son évangile par ces mêmes mots. Au commencement. La Genèse nous présente un Dieu dont l'existence ne s'explique pas, parce qu'il est avant toute chose. C'est lui qui donne existence à tout le reste, à tout le réel. Et donc la Genèse et la Bible ne nous expliquent pas comment Dieu est arrivé là, parce que Dieu est. Et ce n'est pas un hasard si Dieu se présente dans l'Ancien Testament sous le nom « je suis qui je suis ». Et de même ici, Jean veut que nous comprenions bien que celui dont il parle est avant toute chose. La parole, verset 1, était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et puis il va insister au verset 2, elle était au commencement, auprès de Dieu. Et au verset 3, on voit que cette parole, elle est créateur et non pas créature. Tout a été fait par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Alors de qui est-ce que Jean parle ici? Qui est ce logos qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui est Dieu? Alors, rappelons-nous un instant le texte de Genèse 1. Ce texte nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Donc Dieu est là et il a créé l'univers, le ciel et la terre. C'est une façon de décrire au-delà de ce qu'on peut voir, hein, le ciel bleu, la terre, c'est l'univers. Il va créer l'univers et il va le remplir et lui donner forme. Genèse 1, 3 nous dit « Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière ». Et puis, dans le texte de la Genèse, on va voir à 9 autres reprises dans ce même chapitre 1 de la Genèse que Dieu va créer en disant, en parlant. Dieu parle et cela arrive. Et tout l'Ancien Testament et même toute la Bible confirme cette puissance et cette efficacité créatrice de la parole de Dieu. Alors je vais citer un texte parmi bien d'autres. On a un texte dans les psaumes qui nous dit « Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. » L'armée du ciel, c'est une façon de parler des étoiles, des astres. Or, Dieu n'a pas utilisé cette parole une seule fois lors de la création. Il n'a pas parlé, puis ensuite il s'est tué pour le reste de l'histoire. Il continue à agir par elle. Et un autre texte de l'Ancien Testament, un texte du prophète Ésaïe, nous dit ceci. C'est Dieu qui dit « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplit la mission que je lui ai confiée. Et ce texte est étonnant, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu évoque sa parole ici comme s'il s'agissait de quelqu'un. Alors certes, on pourrait toujours dire que c'est une personnification poétique, mais c'est frappant tout de même. Lorsqu'on dit que Dieu parle, c'est évidemment une image. Il n'utilise pas des cordes vocales. Il n'est pas obligé, en tout cas, de produire un son. Mais comment comprendre cette image? Il me semble que quand la Bible dit que Dieu parle, elle veut dire qu'il veut, qu'il décide et qu'il déclare. Il exprime sa volonté, il communique qui il est et ce qu'il veut faire. Mais comme Dieu est souverain et tout-puissant, comme il n'est limité par rien, eh bien ce qu'il dit a lieu, sans faute. C'est une parole absolument efficace. Mais que nous dit Jean, si on revient au texte de ce soir? Quelle est cette réalité stupéfiante? Il nous dit que cette parole est une personne. Cette parole n'est pas simplement une émanation de la volonté de Dieu, elle est quelqu'un. Elle est Dieu dans le sens où elle n'est pas de l'ordre du créé, mais de l'ordre du créateur. Elle est pleinement Dieu. Elle est Dieu parce qu'elle est l'expression de la personne de Dieu au sens le plus fort possible. C'est un autre texte du Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux, qui nous dit cela. Elle est auprès de Dieu depuis toujours, elle est avec Dieu et elle est Dieu. Alors, il faut reconnaître que nous sommes en plein mystère. Il y a quand même des mystères dans la Bible et c'est normal, j'ai envie de dire, puisque Dieu est Dieu. Si on pouvait pleinement comprendre Dieu, ça devrait plutôt nous inquiéter. Parce que Dieu est Dieu et que nous sommes limités, nous sommes des créatures, il est naturel qu'il y ait des choses à propos de sa personne que nous ne puissions pas comprendre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jean n'invente pas cette idée presque inconcevable pour nous. D'autres écrits du Nouveau Testament disent des choses semblables. Je viens de faire référence à l'Épître aux Hébreux dans son prologue qui nous dit « Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Il, le Fils, soutient tout par sa parole puissante. » L'apôtre Paul va écrire dans sa lettre aux Colossiens que le Fils est l'image du Dieu invisible. Mais au cas où on se méprendrait sur qu'est-ce qu'il veut dire par l'image, il dit c'est en lui, en le Fils, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Il existe avant toute chose, ajoute Paul, et tout subsiste en lui. Et Jésus lui-même n'a-t-il pas affirmé, entre autres déclarations fracassantes, avant qu'Abraham n'existe, je suis. Et on remarque qu'il reprend en disant cela, le nom que Dieu s'est donné dans l'Ancien Testament, « Je suis ». Donc Jean n'est pas le seul à affirmer avec force que Jésus, le Fils de Dieu, existe depuis toujours et qu'il est lui-même Dieu. Mais il est le seul à avoir, sous l'inspiration du Saint-Esprit, fait le lien direct entre Jésus, le Fils, et la parole par laquelle Dieu a créé le monde. Et cette vérité, elle est époustouflante. Cette parole par laquelle Dieu a créé le monde, cette parole puissante, efficace par laquelle Dieu communique, par laquelle il manifeste et exprime son être, eh bien c'est quelqu'un, nous dit Jean. C'est le Fils. Alors certains se demanderont peut-être, en tout cas moi je me suis posé la question, comment est-ce que l'apôtre Jean a compris ça? Il est le seul à faire explicitement ce lien. Comment est-ce qu'il a pu le comprendre? Est-ce que Dieu le lui a révélé directement, peut-être par une vision, par une révélation? C'est possible, on ne peut pas l'exclure. Mais il me paraît un peu plus probable que Jean a fait ce lien parce qu'il a pleinement compris, avec une profondeur extraordinaire, qui était Jésus, qui est Jésus. Il a côtoyé Jésus dans son humanité, il a reconnu en lui le Fils de Dieu, il l'a vu ressuscité, il a compris le sens de sa venue, il a compris le sens de son œuvre à la croix, et il a compris que Jésus est véritablement le Fils éternel de Dieu, que Fils de Dieu, ce n'est pas simplement une façon de parler, une sorte de terme honorifique, qu'il est une personne distincte du Père, tout en étant lui-même Dieu, sans doute en rassemblant diverses données de l'Ancien Testament. Jean a compris ces choses. Il a compris que Jésus est le médiateur de la puissance de Dieu, celui qui fait le lien entre Dieu et sa création. Et sous l'inspiration de l'Esprit, à la lecture de la Genèse, il a vu dans cette parole puissante par laquelle Dieu a tout créé, la personne même de son Sauveur. Alors je l'ai dit au début, ces versets, ils sont époustouflants et ils doivent, dans un sens, nous faire trembler de tout notre être. La parole de Dieu, dans sa réalité la plus essentielle, c'est quelqu'un. Mais ce qui doit peut-être nous faire trembler plus encore, c'est le verset 14. Et j'en arrive au deuxième point, une parole qui est venue parmi nous. Pour ceux qui lisent la Bible depuis un moment, peut-être que ce verset 14 du chapitre 1 de Jean est devenu habituel. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous. Pourtant, il faut être conscient de ce que Jean nous dit ici. Ce qu'il nous dit ici, c'est, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul, même si Paul les utilise un peu différemment, c'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Jean a déjà dit quelque chose de stupéfiant en associant Jésus-Christ à la parole éternelle de Dieu. Et il va dire quelque chose de profondément choquant pour ses contemporains au verset 14. La parole s'est faite chair, c'est-à-dire, c'est une façon de dire, la parole s'est faite homme, être humain. Il y a longtemps, dans une église anglophone, j'ai entendu un message sur Jean 1. Et le titre que le prédicateur avait donné à son message, c'était « God concarné », donc Dieu concarné, hein, Dieu avec la viande. Alors, je trouve le jeu de mots un peu de mauvais goût par rapport à la profondeur du texte. Peut-être même que certains sont choqués en entendant cette expression. Mais je le dis parce que, dans un sens, les lecteurs de Jean étaient aussi choqués, sinon plus. Sans doute plus, d'ailleurs. Et ça peut nous aider un peu à comprendre le choc ressenti par les contemporains de Jean en lisant cette phrase. Dieu a revêtu la réalité humaine jusque dans sa réalité corporelle et physique. Dieu s'est véritablement fait homme. Ce n'était pas une illusion, ce n'est pas une apparence, mais une réalité. Dieu s'est fait chair. Pour un juif de l'époque de Jean, Jean lui-même est juif et il écrit au moins en partie à des juifs, il y avait là quelque chose d'impensable. Comment est-ce que le Créateur peut se faire homme? Et comment est-ce qu'il peut s'humilier au point de devenir notre semblable? Comment imaginer que le Dieu Tout-Puissant puisse se faire homme, créature? Et si on pense à un grec de l'époque de Jean, c'était la culture dominante de toute cette partie du monde, l'idée que Dieu se fasse homme, c'était tout aussi inconcevable, pour d'autres raisons, pour un grec de l'époque. Mais comment est-ce que Dieu, entre guillemets, qu'il soit conçu comme le chef du panthéon, le sur-Dieu en quelque sorte, ou bien comme l'esprit ordonnateur du monde, comment est-ce que le Logos pourrait se faire chair? Alors que pour les Grecs de l'époque, Dieu précisément, c'est tout ce qui s'oppose à la chair. La chair, il la voyait comme une entrave, comme la marque de la condition faillible et mortelle de l'homme. Et l'idée, c'était qu'il fallait se libérer de la chair, il fallait se libérer de cette dimension physique pour pouvoir accéder au divin. Et donc dire que Dieu s'est fait chair, mais c'était absurde, ça revenait à dire que l'immortel s'est fait mortel, que la gloire a revêtu la honte, et c'était impensable. Et pourtant, ce que Jean montrera plus loin dans son évangile, c'est que précisément, par un mystère insondable, l'immortel a revêtu notre humanité mortelle. Le Dieu de gloire a accepté de s'humilier pour pouvoir nous chercher et nous ramener à lui. D'une certaine façon, nous devrions être choqués, au moins dans un premier temps, à l'idée que Dieu se fasse homme. Parce que si nous trouvons ça normal, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et je crois que ce texte est un de ces textes qui nous montre que nous avons un Dieu extrême, prêt à faire quelque chose d'inouï par amour pour nous. La parole s'est faite homme, nous dit Jean, et elle a habité parmi nous, elle a fait sa demeure parmi nous. Alors Jean ne veut pas simplement dire que Jésus a habité parmi les hommes, qu'il avait un domicile, etc. Oui, c'est vrai également, bien sûr. Mais Jean écrit littéralement que la parole, dans le texte original, il dit que la parole a planté sa tente parmi nous. Et ce verbe renvoie à la tente de Dieu, c'est-à-dire le tabernacle. Dans le précurseur du temple pour Israël, lorsque le peuple était dans le désert, c'est dans le tabernacle qu'ils adoraient Dieu. Et Jean nous dit qu'en venant sur terre dans la personne de Jésus, Dieu a établi son temple parmi nous. le tabernacle de l'Ancien Testament, il avait pour fonction de localiser symboliquement, bien sûr, la présence de Dieu. Dieu est partout, on est bien d'accord, mais il s'agissait de symboliser sa présence par le tabernacle. Mais Jésus, lui, il est venu apporter la présence réelle et incarnée de Dieu parmi nous. Là où Jésus est, Dieu habite d'une façon toute particulière. Et là encore, on est dans le mystère, il faut le reconnaître, et on ne pourra jamais, en tout cas dans cette vie, on ne pourra pas saisir pleinement ce miracle. L'immortel est devenu un homme. Il est venu pour que Dieu réside parmi les hommes. Lui, le Dieu de gloire, est né humblement, dans une famille modeste en plus, pour couronner le tout. Pendant au moins une trentaine d'années, il a vécu parmi ses contemporains. Il a eu une vie normale par beaucoup d'aspects. Je parle là de avant son ministère public. Il a pratiqué un métier, charpentier. Je me suis dit un jour, il avait des clients, des gens qui lui achetaient du bois. Il a certainement eu des temps de loisirs avec des amis. Et puis, il s'est révélé, progressivement, mais de façon très nette, tel qu'il est, au cours de son ministère public de 2 à 3 ans, quelques débats sur sa durée, jusqu'à sa mort sur la croix et sa résurrection au 3e jour. Et aujourd'hui encore, l'idée que Dieu se fasse homme, puisse se faire homme, cette idée reste unique au christianisme. Et elle est soit scandaleuse, soit folle pour le reste du monde. Mais Jean, qui a écrit ce texte, a été témoin de Jésus. Il l'a vu à l'œuvre, il a entendu son enseignement, il a été témoin de sa mort et de sa résurrection. Et il affirme, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Si vous êtes chrétien, je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, il faut bien prendre conscience que vous êtes de ces gens qui affirment que le Dieu de gloire, le Créateur, est venu se faire homme et qu'il a vécu parmi nous. Et vous croyez, si vous êtes chrétien, qu'il s'est solidarisé jusqu'au bout avec nous en revêtant notre condition humaine. Vous croyez que ce Jésus de Nazareth qui a vécu en Galilée et en Judée au début du 1er siècle, c'est le Dieu de l'univers, fait chair. Est-ce que vous le croyez vraiment? Et si oui, si vraiment on croit que Dieu est venu dans notre monde, en chair et en os, dans l'histoire, eh bien on a compris que plus rien ne sera comme avant. Si Dieu nous aime à ce point, s'il est aussi extrême dans son amour pour nous, au point de revêtir un corps humain, au point de vivre en homme parmi les hommes, et puis au point de se laisser rejeter et mépriser, au point de se faire juger coupable dans une parodie de procès, au point de se faire torturer, cracher dessus et exécuter. Dieu s'est fait torturer, cracher dessus, exécuter. Si Dieu a été prêt à faire ça pour toi, pour moi, alors la folie n'est plus de croire qu'il a pu le faire, mais la folie, c'est plutôt de faire comme si ça n'était jamais arrivé. Jean nous a déjà dit l'essentiel, la parole est Dieu, la parole s'est faite chair. Et il va terminer cet extraordinaire prologue en nous donnant le coup de grâce, si j'ose dire, le bouquet final. Verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. » Je vous cite une autre traduction qui peut-être nous parle un peu plus. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Une parole qui est Dieu avec nous. En France, personne n'a jamais vu Dieu, ça pourrait être notre devise nationale, je pense. Nous sommes l'un des pays où la philosophie matérialiste, qui refuse d'envisager qu'il y ait d'autres horizons dans l'univers que l'homme lui-même, eh bien, c'est l'un des pays où cette philosophie a été la plus influente et la plus dominante. Puisque Dieu n'est pas visible, dit-on, il est naturel de supposer qu'il n'existe pas. On se fait des idées si on croit en Dieu. Ou alors, si vraiment on tient à croire en lui, eh bien, qu'on le fasse en privé, sans déranger personne, et surtout sans en parler. Puisque Dieu est invisible, pense-t-on, alors il faut le reléguer à une vision du monde, une idéologie, un concept peut-être, pourquoi pas, ça fait de mal à personne. À la limite, on peut penser qu'il y a quelque chose d'indéfinissable et d'impersonnel qui nous dépasse. Je pense que pas mal de nos contemporains le pensent. Mais on poursuit en disant, mais enfin, personne n'a jamais vu Dieu. De là à penser que Dieu est personnel, personne ne l'a vu. Et puis Dieu n'est pas une réalité qu'on peut contrôler, ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai. Et donc, pour beaucoup, nous n'avons aucune responsabilité envers un Dieu que nous ne voyons même pas. Et si Dieu il y a, eh bien, on peut en faire, comme je l'ai dit, un concept, un Dieu à notre image, comme ça nous arrange. Ou simplement l'évacuer totalement de la scène et tout simplement ne pas croire en lui. Mais Jean poursuit au verset 18 par des paroles terribles pour cette conception. Personne n'a jamais vu Dieu, d'accord, mais celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Jean est parfaitement conscient que ce qu'il dit est paradoxal. Il nous parle d'un Dieu invisible qui s'est rendu visible. Dieu le Fils unique, celui qui est la parole de Dieu, l'expression de son être et de sa réalité, et celui qui a fait connaître Dieu. Eh bien, si c'est vrai, si le Dieu invisible s'est fait connaître dans l'histoire humaine, en laissant aussi des témoins oculaires, s'il s'est rendu visible, eh bien, tout doit s'arrêter, encore une fois. Et ce bal tragique par lequel tant d'êtres humains vivent leur vie comme une fuite en avant perpétuelle, en essayant de donner du sens à cette vie, tout en fonçant vers la mort, eh bien, ça doit cesser à l'instant. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, crie l'Éternel au psaume 46, verset 11. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et le psalmiste continue, l'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Jésus est Dieu avec nous, comme l'annonçait déjà le prophète Ésaïe. Et c'est terrible que le monde continue à l'ignorer, continue à ne pas savoir ou à ne pas vouloir savoir que le Tout-Puissant s'est fait faible, que l'Éternel s'est fait mortel. Il n'est pas resté faible, il n'est pas resté mortel, et c'est le miracle de Pâques. Mais il a fait tout cela non seulement pour se solidariser pleinement avec nous, mais aussi et surtout pour nous sauver de notre péché, c'est-à-dire de toutes ces errances dans nos vies qui nous gardaient ou qui nous gardent encore peut-être éloignés de Dieu. Tout ce qui nous oriente contre Dieu, activement ou de façon plus passive. Dieu a lui-même comblé le gouffre que nous avions creusé entre lui et nous. Et puis il a détruit la mort par sa propre mort. Tout cela, c'est extrême. Nous avons un Dieu extrême. Et si Jésus est bien celui qu'il affirmait être, alors encore une fois, tout le reste doit passer au second plan. Et il faut se précipiter de rencontrer ce Créateur qui est venu vers nous et qui nous invite à le connaître. Je vais prier pour clore. Merci, notre Dieu, de t'être fait connaître et d'être venu parmi nous en chair et en os. Ne permets pas que quiconque ici se prive de cette magnifique connaissance de ta personne. Et s'il y en a parmi nous qui t'ont rencontré, mais qui se sont éloignés, et dans un sens, c'est notre tendance à tous de s'éloigner, alors veuille nous rattraper par ta parole, veuille nous rappeler qui tu es, veuille nous rappeler ce miracle de l'incarnation par lequel nous pouvons te connaître aujourd'hui. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.